Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis super content parce que je suis devant quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle s'appelle Vanessa Bruno, de la marque éponyme Vanessa Bruno. Et donc voilà, je vais lui demander de se présenter, surtout de revenir sur son parcours. Est-ce que tu peux... Bonjour déjà.
Bonjour.
Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours depuis ta plus tendre enfance? J'aimerais bien savoir où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené à la mode?
On peut dire que je suis une enfant de la balle d'abord, ça ouais. C'est important,
okay.
Parce que mes parents ont été vraiment ce qu'on appelle les précurseurs du prêt-à-porter. Mon père est arrivé à Paris avec Jean Bousquet qui était Cacharel, donc ils ont travaillé, fondé ensemble Cacharel au début. Après, pour les gens peut-être qui vont peut-être pas pour une génération connaître, mais pour des gens qui en tout cas ont suivi le prêt-à-porter depuis le début de sa création, parce qu'il faut jamais oublier que en fin de compte, le prêt-à-porter s'est fait au début des années 70, ouais. 60-70.
Oui.
Et là, ça a été la création de marques qu'il a fait, par exemple, avec Emmanuel Kahn.
Oui.
Évidemment, c'était toute la génération, Dorothée Bis, Sonia Riquiel, je pourrais en citer d'autres. Mm-hmm. Mais voilà, et c'était vraiment des gens qui étaient... qui n'étaient pas rentrés dans un métier, mais qui se sont faits sur le fil du rasoir. Ma mère était mannequin. Donc ma mère, je le dis souvent pendant mes interviews, a été vraiment une femme qui m'a inspirée, une muse. Danoise, arrivée à Paris comme fille au père, devenue mannequin de maison de couture, mais après a travaillé aussi dans les magazines. Et c'est vrai qu'elle avait un sens, elle a toujours ce sens du style. Ce l'air de rien, de choper les choses, de chiner, de mélanger des choses avec des pièces de créateurs ou pas. Voilà, à moi, au milieu de tout ça, j'ai toujours été passionnée par la mode. Je crois que je l'ai fait de façon spontanée, mais je l'ai jamais fait en faisant un parcours d'école. En fin de compte, très jeune, j'ai commencé à faire des stages. Je donnais des coups de main pendant les vacances, dans les ateliers des uns et des autres. J'ai fait très vite aussi mannequin, beaucoup mannequin cabine. Bon, j'avais les mensurations. J'avais les mensurations pour faire aussi tous les petits boulots. Quand on me disait, tiens, tu vas faire un showroom, pars faire mannequin. Et en fin de compte, en portant les vêtements devant les clients, j'ai compris que il y avait une autre façon aussi qui était pas simplement d'être une mannequin, mais de présenter les choses avec une certaine
un style. Et ça, c'est inné, hein, le
ouais,
style.
Enfin, c'est ce que dit. On dit toujours, ah, cette fille, elle a du style.
Ouais,
je pense que je dégageais certainement ça, qui faisait que il y avait ce côté sympathique quand je mettais quelque chose. Je savais comment me le mettre, le mélanger. Et je suis partie vers l'âge de 18 ans au Canada. À Montréal, pour passer ma dernière année du bac. Pourquoi là-bas? Ben, c'était un choix avec une copine. On rêvait de partir de Paris. Et là, ça a été le no man's land total des vêtements. Et je me suis retrouvée, en fin de compte, à commencer à chiner un peu partout. Je suis partie, je prenais le bus, j'allais aux frontières aux États-Unis entre du côté de Chicago, les Grands Lacs, et j'allais chiner là-bas. Enfin voilà, et j'ai commencé à ramener des choses. J'ai travaillé sur moi-même. J'ai commencé à mélanger des blouses, je recomposais des choses, des vestes, enfin en tweed d'homme. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Mais je me voyais pas rentrer dans une école. J'avais envie de bosser tout de suite. Voilà.
T'avais pas besoin d'apprendre le métier, de toute façon, t'avais été à bonne école.
Bah, peut-être parce que j'ai toujours eu un sens de regarder les choses Même quand j'étais mannequin dans les ateliers, j'adorais rester assise. Bah, d'ailleurs, à l'époque, on vous demandait de rester assise sur un tabouret le temps que la toile soit prête. Mais moi, je restais pas assise, je me mettais à côté des modélistes. Je disais, ah bon, tu fais ça comment? Ah ouais, ok. Donc, j'ai regardé, ça m'intéressait, quoi. J'étais pas génération iPhone devant son iPhone toute la journée.
D'accord. Donc, t'as appris sur le tas.
J'ai appris sur le tas et petit à petit, je me suis retrouvée à faire... On m'a fait confiance. J'ai fait une première collection pour Monoprix, qui était D'accord. une marque qui s'appelait Miss Hélène.
Ouais, peut-être. Et comment ça s'est présenté, ça?
En fait, compte, mon père travaillait pour eux, il fabriquait pour eux.
D'accord.
Et pareil, ils m'ont vu, ils ont vu un petit peu le style que j'avais. Et puis, je sais pas, il y avait une femme qui était là qui a dit « Mais pourquoi elle ne ferait pas une petite ligne ?» Ils sentaient qu'il y avait quelque chose de frais et j'ai commencé comme ça. Très vite, j'ai fait des jobs de freelance à droite et à gauche. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de freelance.
Ouais. Styliste designer. Hein.
Styliste designer.
Et même après avoir créé ta marque, tu as toujours fait ce
J'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que... Pour monter ma marque, il me fallait de l'argent et, ouais. et pour ça, j'avais toujours des jobs à côté. Des fois, je cumulais 3 jobs en même temps que le développement de ma marque. Mmh. Mais pour, je pense, tout jeune styliste ou créateur qui démarre, ils savent très bien qu'il faut faire des jobs à côté pour gagner sa vie, quoi.
Et pour financer.
Et surtout, j'ai eu la chance de rentrer dans un studio. On m'a mis responsable d'un studio chez Daniel Lichter et j'ai eu la chance de travailler avec une styliste à l'époque. Était anglaise qui s'appelait Karen et cette fille elle a été incroyable de rigueur à m'apprendre comment vraiment travailler construire une collection. On voyageait, on faisait tous les salons en Italie, dans le train on se mettait à quatre pattes, il fallait remplir le plan de collection, choisir les matières, tout de suite acheter. Donc il y a eu une espèce de façon hyper efficace, j'ai trouvé, de m'apprendre les choses. Et comme moi je suis quelqu'un de passionné, j'ai aucun problème à bosser
H24.
Je pense que on formait un bon binôme. Voilà. Dans mon parcours, très vite, j'ai voulu monter ma marque.
Pourquoi?
Bah, je sais pas. Je sentais comme ça que j'avais quelque chose à dire. Pourquoi? C'est drôle. Je me suis posé la question il y a pas très longtemps, et c'était vraiment pas de façon. Et je le dis honnêtement. Ambitieuse dans le sens je veux avoir ma marque, être connue, c'était que j'avais besoin créativement de m'exprimer.
Est-ce que tu n'arrivais pas à le faire dans les autres marques?
Bah forcément, on a des idées. On est là, on se dit « Ah, mais moi, je verrais bien ça comme ça, comme ça. Mais moi, ça me parlerait plus si je pouvais le construire comme ça. » Et puis, on a besoin de faire des choses déjà qu'on s'approprie pour soi-même. Et si ça plaît aux autres, parce qu'on pense que ça va plaire aux autres, il y a toujours ce rapport, moi si j'aime ça, je suis sûre que ça va plaire aux autres. Donc c'est pas agence, moi j'aime ça et donc c'est que pour moi. Non, ça marche pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ça a été intéressant dans le sens où j'ai commencé avec une toute petite ligne d'une quinzaine de pièces et j'ai eu l'opportunité d'être dans le salon de prêt-à-porter de Versailles à l'époque. On m'a vraiment donné un couloir, mais vraiment un placard. Et il s'est passé un phénomène incroyable. J'ai eu énormément de clients japonais à l'époque qui m'ont passé des commandes. Et moi, je savais pas comment j'allais fabriquer. Je savais pas comment j'allais faire. Je m'attendais absolument pas à ça. Et c'est comme ça que les choses ont démarré.
Ouais. Et à l'époque, le paysage de la mode, parce que là, on est encore en 97, 98, si je fais... Je dis une bêtise. 95.
Non, on est... Alors, on serait plutôt en... 80, on va dire 10, 12.
D'accord, ok. Donc je calcule très très mal.
Peut-être. 90, ma fille a 1996, elle a 24 ans. Ouais. Donc non, à l'époque j'avais 24 ans, 25 ans. Je suis nulle en calcul, désolé.
Moi aussi, c'est pas grave. Et donc ouais, à l'époque, ça ressemble à quoi l'environnement de la mode? Parce que enfin, la question sous-jacente, c'est comment tu te positionnes à l'époque? Est-ce que tu es jeune créatrice, comme jeune créatrice, ou
je tiens à dire que vraiment le monde de la mode était très différent de maintenant.
Ouais.
Oui, il y avait des marques leaders, mais c'était des marques Je veux dire, pour ceux qui ont connu les débuts de Prada, les débuts de Miu Miu, c'était génial. Mmh. Pour ceux qui ont connu des marques comme Joseph, c'était top. Pour ceux qui ont connu même une marque comme Jill Sanders, avec ce qu'elle a apporté, c'était vraiment très super. Je pourrais en citer d'autres, évidemment, encore aujourd'hui, comme des... évidemment, les Japonais étaient aussi très présents. Mais surtout, on avait des rythmes de collection qui étaient beaucoup plus calmes et normales.
C'est-à-dire, deux salons par an.
Il y avait deux salons par an, c'était réglé, on préparait nos collections. Ça a commencé à s'accélérer dans les années 2010, on va dire 2007-2010. Mais on avait un rythme, donc ce qui voulait dire qu'on arrivait bien à poser les choses. Après, je pense qu'il y avait il y avait tous ces magazines qui étaient tellement forts. Il y avait une vraie liberté dans les magazines. Je veux dire, le Vogue italien était juste extraordinaire. Tous les magazines anglais, ID, The Face, c'était absolument génial. Donc, il y avait une culture mode très forte dans ces années-là.
Qu'on a perdu.
Pour moi, qu'on a perdu, oui.
Ouais. Et... Donc là, on est en 95 au salon de Versailles. T'as les Japonais qui achètent. C'est quoi la suite des événements? Parce que ça a été très vite, j'ai l'impression, quand même. Le succès, tu l'as rencontré très rapidement. D'abord au Japon, mais aussi en...
En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je faisais du consulting.
Ouais.
Et on m'a demandé, un groupe japonais m'a demandé de faire du consulting au Japon. Et donc là, je dis génial, j'adorerais aller au Japon. Et là, ça a été la découverte. Je suis partie...
T'avais jamais été au Japon ?
J'avais jamais été au Japon. Donc, j'arrive comme styliste, proposition de collection, travailler avec eux, et je découvre le Japon. Et je découvre à Tokyo l'effervescence. C'était très là-bas. Ils ont toujours été inspirés par, oui, le côté très chic parisienne, mais aussi très... on va dire American vintage. Donc ils ont ce côté, ils aiment des choses qui sont vraiment avec des valeurs sûres. Même si dans la création japonaise, presque ça n'a rien à voir. Ils vont partir sur beaucoup plus leur code à eux finalement de structure de vêtements à la japonaise, on va dire. Et ce qui a été super intéressant pour moi, c'était de voir en fin de compte ce goût que j'avais et de voir comment ils étaient capables de le développer, mais super bien. C'est-à-dire que tellement ils sont capables de le développer, c'est presque du copier-coller hyper bien fait. Je sais pas comment expliquer. Mais avec leur sens à eux, ils le transforment d'une façon esthétique super bien posée. Et ils ont une rigueur. En plus, ils ont une pensée. Alors, si vous comprenez pas la pensée japonaise à des moments quand vous travaillez avec eux,
c'est compliqué.
C'est compliqué. Donc déjà, ça a été une très, très bonne école pour moi. Et du coup, j'avais comme ça des clients qui me suivaient. Mais donc, ça m'a permis aussi de comprendre mieux leur marché et de me rassurer dans ce que j'aimais faire. C'est-à-dire des choses authentiques, des choses qui étaient raffinées. J'aimais énormément toujours les blues. J'étais toujours inspirée des blues vintage, du côté 1900. Mais j'adorais les jeans Oshkosh, les bons jeans, le côté un peu workwear. J'aimais les constructions des vraies vestes en tweed des hommes, c'est-à-dire le côté androgyne. Mais j'aimais la féminité, le côté plus des robes sensuelles, mais on va dire toujours posées sur le corps de façon extrêmement élégante, jamais forcée. Donc pour moi, c'était plus les codes à Natasia Kinski dans la lune dans le caniveau. C'était les icônes, Lauren Hutton. C'était toutes ces filles-là, évidemment Jane Birkin, ce côté hyper nature mais sensuel en même temps. Et comme j'ai vu que ils comprenaient ça, je me suis dit ok, ben voilà,
c'est là-dessus qu'il faut que j'aille,
il faut là-dessus que j'ai pas peur d'y aller, quoi.
C'est la confiance. T'as pris
et
la confiance.
C'est eux qui ont été les premiers clients. D'ailleurs, le phénomène du Kaba a démarré à Tokyo. Et c'est parce qu'il a démarré à Tokyo, quand on m'a dit non, mais tu le vendras jamais ce sac, c'est pas possible. Même si moi j'étais dans la rue avec mon vélo, je venais d'avoir ma fille venait de naître, tout le monde me disait ah mais il est top ton sac. Je me disais à un moment il faut bien qu'il marche. On n'arrête pas de me dire qu'il est top.
Il est top.
Et donc, ça démarrait la première année au Japon et très vite, ouais. La deuxième année, ça commençait à Paris et ailleurs.
À Paris, d'accord. Ouais. Et donc, le développement s'est fait sur un modèle wholesale. Donc, tu étais revendu dans des boutiques.
Le développement s'est fait sur un modèle wholesale.
Ouais.
Et fort de ce partenariat, et fort du succès qu'ils avaient des collections que je leur faisais, et du fait que, comme c'était un grand magasin, ils revendaient aussi mes collections à travers aussi un réseau que D'accord. j'avais d'autres. J'avais des, pour ceux qui connaissent bien Tokyo, c'était des marques comme Beams qui sont encore là, qui sont super.
C'est enfin, ouf.
Je pourrais en citer d'autres, United Harrods et tout ça. Et donc, fort de ça, ils m'ont dit, je voulais absolument ouvrir une boutique à Paris. J'avais pas les moyens financiers. Donc, je suis allée leur demander s'ils étaient OK pour me financer, m'aider à financer une boutique à Paris. Et ça a commencé comme ça.
Et ça, c'est combien de temps après le démarrage?
Je pense que j'ai dû ouvrir ma boutique en 2000 ou 2001, à Saint-Sulpice, ouais.
D'accord. Le Kaba, il arrive à quel moment?
Il arrive à peu près à ce moment-là.
En 2001?
Ouais, en 2000 même. 2000-2001, puisque j'ai, en ouvrant ma boutique, je voulais faire un sac. Et D'accord. c'était le sac que j'ai fait.
D'accord. Raconte-nous ce truc-là, parce que bon, ça quand même, on doit te la poser souvent cette question, ça doit être un peu te gonfler d'ailleurs parfois.
Non, ça me gonfle pas, parce que je pense que...
Ça fait partie de la marque, quoi.
Non, mais c'est mieux que ça, ça fait partie de la marque, et c'est encore un succès.
Ouais.
Et c'est encore quelque chose où il n'y a pas un jour, je me dis pas, mais attends, t'es quand même béni des dieux, quoi. Et en plus, c'est un vrai plaisir pour moi parce que je le fais évoluer. Il a démarré en toile, cette toile canvas, qui est vraiment une toile à bateau, hein. C'est vraiment les toiles qui sont fabriquées pour les toiles à bateau. C'est fait en Bretagne. La paillette, c'est pareil, c'est un fabricant qui est dans le Nord. Ce sac est fabriqué en France, totalement. Après, je l'ai fait faire en lin naturel qui est fait faire en Belgique. C'est une toile qui est fabriquée en Belgique et aujourd'hui, je le fais en paille. À Madagascar, c'est fait à la main dans un endroit super, dans une super usine où ça a permis un développement extraordinaire auprès de beaucoup de gens et c'est fabriqué quand même, ça met plus de 5 jours à être fait, quoi.
Ouais, il y a une vraie valeur ajoutée.
Ah non, mais c'est fait à la main, quoi. Et j'ai mis 4 ans à le mettre au point, hein, quand même. C'est pas genre j'ai trouvé le truc comme ça. Et tout ça pour dire pourquoi ce sac, c'est que je venais d'être jeune maman. Moi, j'avais toujours un grand fourre-tout, panier, et je suis quelqu'un qui me déplace presque exclusivement en vélo. Donc, c'était le sac pratique pour le vélo. La toile, bah, y a le côté hyper workwear pratique, et la paillette pour un côté féminin et ludique. Voilà, c'est parti de cette idée-là.
Et à l'époque, le sac Kaba existait quand même. Il y avait d'autres sacs Kaba. Mais toi, qu'est-ce qu'il a de particulier? Raconte-nous ce sac.
Bah, la construction du sac Kaba, c'est une construction lambda, on va dire, puisque c'est vraiment un montage en carré avec comme une enveloppe qui se remonte. Enfin bon, je vais pas expliquer par là, c'est compliqué. Mais en fin de compte, c'est ce qui a tout changé, ça a été la fonction de cette toile dans laquelle je l'ai fait faire, et surtout avec la paillette, parce que pour les gens qui connaissent bien les constructions et comment est fait ces Kaba, en général, c'est avec de la sangle. Que c'est fait. C'est toi les sangles.
Exactement.
Voilà.
Très bien. Et donc, ouverture de la première boutique, on va revenir sur les différents milestones de la marque. Ouverture de cette boutique, raconte-nous. Donc là, tu fais appel à un investisseur japonais qui t'accompagne.
Qui m'aide à ouvrir la première boutique.
D'accord.
Oui. Mais qui ne s'associe pas avec moi dans la marque.
D'accord. Donc c'est un financement, un prêt ou.
On monte une société ensemble juste pour la boutique.
D'accord.
Et à partir de là. Fort du succès de la première boutique, on décide de monter une deuxième boutique rue de Castiglione.
D'accord.
Que j'ai fermée entre-temps.
OK.
Et après, petit à petit, moi, j'ai commencé à développer mon réseau. Ça a été beaucoup en grand magasin. Et j'ai ouvert comme ça, quelques boutiques. Mais avec eux, je n'ai ouvert que 2 boutiques.
D'accord.
Et c'est après quelques années que j'ai pu racheter mes boutiques, l'investissement qu'ils avaient fait pour être 100% autonome.
Trop bien. Ouvrir une boutique, je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens parce oui. que c'est vraiment le c'est développer son univers finalement. La boutique, elle incarne le plus possible la marque. Qu'est-ce que t'as à l'époque, bon, c'est il y a de nombreuses années, mais à l'époque, qu'est-ce que tu voulais c'était quoi le lifestyle Vanessa Bruno finalement? C'était quoi l'univers que tu voulais transmettre au travers de cette boutique?
Je pense que dès le départ, je voulais un univers qui soit d'une représentation en même temps très parisienne, nonchalante, avec un côté nordique, avec un côté assez, je dirais, naturel. C'est-à-dire que je voulais pas être dans le côté surfait créateur. Quand je dis naturel, c'est-à-dire l'idée qu'on rentre dans un endroit et qu'on se sente bien tout de suite. Et qu'il n'y avait pas besoin de en jouer de trop d'architecture, trop de scie, trop de froid, trop de marbre, trop de je sais pas quoi. Donc après j'ai quand même toutes ces années évolué mon concept, mais je pense qu'aujourd'hui pour les gens qui connaissent mes boutiques, qui connaissent l'univers de ma marque, j'ai pas fondamentalement changé depuis toutes ces années. Je suis toujours ancrée dans ce style, comme je disais, d'une parisienne féminine, chic, nonchalante, avec un côté aussi assez, j'ai envie de dire, confortable, fonctionnel, et en même temps des choses qu'elles peuvent reporter. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où elles vont se dire « Non, mais je vais être une caricature de mode la saison prochaine avec ça » ou « C'est off-tune ». C'est-à-dire que j'aime bien des choses qui ont une certaine durabilité, un style qui ont une certaine, je dirais, reconnaissance. Ça, c'est important, il faut pouvoir le reconnaître. Mais en même temps, quelque chose... facile à s'approprier, dans lequel elle se retrouve ou elle se sente bien. Et c'est ce que je voulais faire aussi avec mon univers de boutique.
Comment est-ce qu'on reconnaît un vêtement à Vanessa Bruno?
On reconnaît en tout cas quelque chose dans l'idée qu'elles sont assez féminines. Après, moi je vois plein de filles porter mes vêtements. Ouais. Et c'est plus un style de fille en vérité qu'on reconnaît.
C'est une femme qui te ressemble finalement, non?
Souvent, ouais. Souvent. Mais je suis très à l'aise avec différents styles de femmes parce que encore une fois, pour moi, c'est pour ça que je dis que la marque, c'est pas une marque qui s'associe à une femme qui a, par exemple, que 20 à 30 ans ou 30 à je sais pas quoi. J'ai aussi bien des très jeunes femmes que des femmes beaucoup plus âgées, beaucoup plus mûres. Et il n'y a pas de problème. En fin de compte, elles vont, c'est assez ouvert au niveau de l'âge pour au contraire qu'elles se retrouvent au niveau du style. C'est ça que je veux dire.
Comment on arrive à ça? Parce que ça, je pense que beaucoup de marques rêvent de ça.
Parce qu'il ne faut pas avoir l'air. Moi, c'est ce que j'explique toujours. Quand je fais des vêtements, d'abord, je pense que j'ai des vêtements que j'ai même dans mon placard que j'ai fait il y a des années maintenant. Quand je les porte, j'ai pas l'air. Je me dis pas, ah non, mais ça te va plus, t'as plus l'âge. Ouais. Tu vois. De la même façon que je sais pour avoir rencontré beaucoup de clientes, elles me disent, non, mais attends, cette robe, je pourrais la remettre et la remettre parce que je la mets, elle a toujours une coupe moderne. Elle fait pas démodée. Je suis féminine dedans. Donc, je dis pas que j'ai pas fait des erreurs, hein, parce que attention, hein, faut pas non plus dire je suis tout parfaite, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je sais que ce style-là, qui a aussi un style bohème dans ce que je fais. Mais bohème vraiment sur la pointe des pieds, c'est-à-dire pour moi c'est plus bohème parisienne que bohème ethnique, pas du tout.
Tu te sens plutôt entrepreneur ou créateur?
Créatrice. Alors, par la force des choses, j'ai eu les deux casquettes. Voilà. Je suis encore indépendante aujourd'hui. Tu as interviewé il y a pas très longtemps Henri avec qui je viens de m'associer il y a un peu plus d'un an, et c'est la première fois que je me suis associée avec quelqu'un en disant mais c'est avec cette personne que je veux m'associer, quoi. Voilà, je pense
il y a eu un gros fit humain tout de suite.
Et c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on monte sa boîte, quand on ne sait pas tout ce qui va nous arriver, on ne sait pas à quoi on va être confronté. Ouais. Les problèmes, les banques, les finances, les RH, et j'en passe. Mais heureusement qu'à côté, il y a cette balance qui fait que on a cette liberté de création, cette liberté d'entreprendre, cette liberté d'y croire.
Ce rêve, ouais.
Ouais, parce que le nombre de fois où on m'a dit non mais arrête ça, j'y crois pas, machin et tout ça. Et je dis pas que il y a des fois ils avaient peut-être pas tort, mais il y a des choses où je me suis vraiment accrochée, et surtout dans mes sacs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis reconnue dans les sacs Kaba, et même dans les sacs en cuir. Quand j'ai fait mon premier sac en cuir qui s'appelle le sac Lune, dédié à ma fille Lune, mais ça a été un carton total. Et je me souviens très bien, au début on m'a dit mais il tient pas la route, il est mou, il est si, c'est pas ce que cherchent les gens. Et les gens, ils étaient très, à l'époque c'était très, les sacs Prada, c'était très dur, c'était. Et quand j'ai dit ouais mais
moi j'ai pas envie de ça.
J'ai pas envie de ça, moi je sais que j'ai l'impression de, quand je porte un sac comme ça, j'ai pris je suis mamie quoi. Et donc je voulais un sac qui correspondait à mon attitude, à ma façon de vivre. Voilà, dans l'air du temps, de ce que je ressentais. Et je pense que j'ai toujours eu ces petites visions qui ont fait que j'ai réussi à créer des succès comme ça, mais j'avoue que c'est cette liberté qui fait d'entreprendre et de prendre les risques. Et puis, j'ai pu me planter aussi. Parce qu'on traverse pas plus de 20 ans d'une entreprise sans se planter, quoi. Bien soyons clairs.
J'avais envie de te poser cette question parce que 25 ans de vie d'une marque, ça me paraît, c'est rare, quoi. Dire, c'est pas tous les 4 matins qu'on rencontre des gens qui ont une marque depuis 25 ans. Raconte-nous peut-être, avant de parler des plus gros fails ou des plus grosses victoires, c'est quoi, d'après toi, le secret de la longévité?
C'est une bonne question, mais c'est une question que j'aime pas me poser.
Faut mieux pas se la poser.
Non, parce que je pense que quand on commence à se la poser, ouais, on se trompe.
On n'est pas dans le bon chemin. Raconte-nous d'après toi, les plus grands milestones de ces 25 dernières années. Quels ont été les moments forts? Donc, on a parlé de la première collection, de la première boutique, le sac Kaba, etc. Quels sont les grands moments charniers, finalement, de la marque?
Déjà, quand j'ai monté ma marque, j'ai ouvert ma première boutique dans le Marais, rue Ferdinand Duval.
Ouais.
Donc, c'était une petite boutique et derrière, il y avait l'atelier. J'avais une modéliste avec moi et quand la porte s'ouvrait, c'était moi qui vendais.
Trop bien.
Donc, ça, c'est important parce que ça permet vraiment de mieux comprendre sa cliente et d'être au contact aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément et que je continue à faire aujourd'hui.
Tu fais la vendeuse encore parfois de temps en temps?
J'aime me déplacer sur mes points de vente.
Passer
et
du temps.
Si j'ai la possibilité de m'occuper d'une cliente et si j'ai du temps, je peux te promettre que tu peux faire un tour dans mes boutiques, ils te le diront, oui. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est le conseil. C'est savoir bien conseiller les gens. C'est savoir leur donner envie de, quand ils ont acheté quelque chose, ils se disent « Ah, mais c'est trop bien, je me sens bien dedans, j'ai fait un bon achat, j'ai de l'allure, je me sens belle. » Enfin, c'est quand même ça l'idée, quoi.
Ouais, c'est le principe, ouais, au départ.
C'est quand même ça. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une chose très importante. Il faut bien comprendre à qui on s'adresse, pourquoi on fait ses vêtements. Et l'idée, c'est qu'à la fin, dans le conseil vestimentaire qu'il y a, il faut pas qu'il y ait de faute. Voilà. Alors, je dis pas qu'il y en a forcément eu, parce qu'il y a jamais des sans fautes, mais c'est très important qu'il y ait cet objectif-là.
Et comment on fait des vêtements qui sont, dans lesquels tu te sens bien, quoi? Parce que souvent, les gens nous disent, c'est souvent cette phrase de la part des femmes qui disent, j'ai l'impression que le designer, il aimait pas les femmes, quoi. je me sens trop mal dedans. C'est insupportable. C'est très beau, mais je me sens très mal dedans. Comment on fait un vêtement qui aime les femmes?
Je pense que déjà, il faut pouvoir tout de suite ne pas regarder un vêtement en se disant... Enfin, moi, c'est ce que je fais. Quand je parle des femmes qui m'ont inspiré, des icônes, c'est que quand je dis il y a ce chic, cette allure, ce l'air de rien, que nous envient d'ailleurs beaucoup les étrangers, ce chic parisien, ce l'air de rien. Voilà. Mais ça, en fin de compte, c'est dans la silhouette, dans l'allure. C'est pour ça que souvent je dis aux femmes, quand vous avez un pantalon qui vous va bien, qui vous fait des belles fesses et des belles jambes, décidez pas de changer tous les 4 matins parce que t'as trouvé la bonne hauteur de talon qui te va. C'est ça le style parisien, c'est que tu t'ancres dans quelque chose dans lequel tu vas avoir ta silhouette. Tu vas pas changer tous les 4 matins, tu vois. Et ça, c'est très important. Et moi, je le décompose dans mes collections. Je crée comme un puzzle, mais j'ai toujours mes clés de silhouettes qui vont se retrouver là-dedans. Et je pense que ce qui a fait que je suis encore aujourd'hui, que les femmes reviennent ou découvrent ou aiment s'habiller chez moi, c'est qu'elles savent que il y a quelque chose dans laquelle elles vont avoir cette pièce-là dans la garde-robe, elles vont se l'approprier et se le garder. Mais pour revenir à ta question par rapport à ça, c'est que quand il y a une création, et heureusement qu'elle existe, elle est importante, c'est-à-dire une création qui veut créer un vêtement, mais qui ne veut pas rentrer dans, on va dire, plus la vie des gens. Mais moi, je suis là pour habiller les gens tous les jours. Je dis toujours, je fais des vêtements pour sublimer le quotidien. Mmh. Ça me va très bien. Mmh. Moi, je veux sublimer le quotidien des femmes. Mmh. Je veux pas sublimer une soirée ou sublimer un événement. Mmh. C'est dans le quotidien qu'on doit être sublime. Mmh. C'est ça que je veux. Et mais on doit l'être avec style, mmh, avec allure. Donc, il y a des créateurs hommes qui savent le faire, comme Yves Saint-Laurent, parce qu'il avait tout compris.
Qu'est-ce qu'il avait compris que les autres n'ont pas compris?
Bah, il faisait des vêtements que les filles avaient envie de porter. Je veux dire, les premières collections d'Yves Saint-Laurent, c'était un tel succès parce que elles sont encore des pièces qui sont devenues des pièces iconiques. Je veux dire, il avait tout compris, même quand il faisait ses blouses, ses grandes blouses, avec ses grands jupons, il savait faire une jupe et ouvrir fendu devant, la fille marchait, tac, tac, tu montais la jambe, c'était beau. Il était pas déguisé. C'est pour ça qu'il a souffert vers la fin, parce que tout le monde pointait les créateurs, la création. Alors, ok, génial, mais lui, il a toujours été dans quelque chose de très élégant, mais qui était dans d'une allure qui devait être portable.
Tu fais de la mode, toi?
Je pense pas que je fais de la mode. Je pense que je propose un univers, un style en tant que styliste. Et donc, je pense que ma communauté de femmes se retrouve dans cet univers.
Pourquoi c'est important, la mode?
Déjà, c'est un langage que je comprends et que j'aime. C'est un langage créatif incroyable parce que on part d'un croquis, on part d'un bout de tissu et à la fin, on est habillé et on arrive à se créer et s'incarner à travers ça. Et on arrive à se transformer et avoir son style. Bien sûr, la voix, bien sûr. Le reste, il n'y a pas que le vêtement qui fait qu'on est quelqu'un, mais ça aide à porter sa personnalité, et ça c'est important, et c'est ça qu'on raconte en fin de compte, comment tu veux et comment tu arrives à porter ta personnalité. C'est intéressant.
Bah ouais, moi ça me passionne.
Voilà.
Juste pour revenir sur les milestones, parce qu'on a un peu zappé la question, les moments importants, donc voilà, l'ouverture de la boutique, et après, c'est quoi les grandes étapes clés de ta carrière?
Alors, c'est vrai que c'est parti très vite.
Très vite, très fort.
J'ai eu très vite des succès à l'international, beaucoup en Asie, en Corée, qui encore aujourd'hui, j'ai plus de 35 points de vente corner en Corée, c'est énorme.
C'est dingue. Ouais.
Bon, et j'ai eu cette chance-là aussi très vite en France et en Europe. Ça a été beaucoup un développement en wholesale. Et quelques créations de boutiques où j'ai réussi à avoir 2-3 boutiques, pas plus. Voilà. J'avais toujours une deuxième ligne qui s'appelait à l'époque AT, que j'ai arrêtée entre-temps. Et ça fait partie typiquement des erreurs.
Des fails, ouais.
Il aurait fallu pas démarrer cette deuxième ligne.
Pourquoi l'avoir démarré à l'époque?
Parce que je pense que j'avais un côté, j'étais encore... j'adorais le côté très workwear, easy... je savais que je voulais développer des choses plus sophistiquées, mais j'aimais bien le côté très easy on the go. Et avec AT, j'avais la possibilité de faire ça. Mais je pense que dès le départ, j'aurais dû assumer totalement ça dans les deux lignes.
Ouais.
Dans la première ligne, pardon. Parce que c'est finalement, ça se retrouvait aussi dans la première ligne. Mais ça m'a dépassé parce que cette ligne a eu un tel succès.
OK.
Et ça m'a dépassé. Je m'attendais pas. Et après, quand j'ai pensé que c'était pas une bonne chose, qu'il fallait avoir un message qui soit un message unique sur la première ligne, bah, il a fallu prendre la décision de fermer des corners, fermer. Et donc, forcément, ça veut dire.
Alors que ça cartonnait?
Alors, on sentait que ça commençait un petit peu à avoir atteint, on va dire, son
pic, ouais.
Son pic. Et surtout, moi, je n'avais plus de plaisir à le faire. Et je sentais que j'étais obligée de doubler ce que je faisais déjà dans une ligne par rapport. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On vous demande de faire plus, on vous demande de faire plus de collections, il faut nourrir les grands magasins. Et à un moment, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je veux faire. Donc, et je sentais qu'en plus, comme il y avait tout le développement du digital, le développement sur Instagram, j'ai dit, mais je vais pas commencer à communiquer sur deux lignes, c'est complètement ridicule. Je vais pas dire, je vais faire un Insta AT Vanessa Bruno et un Insta VB, je vais pas faire un site. Donc j'ai dit, il faut vite qu'on arrête ça. Et donc c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter à l'époque.
Comment tu prends tes décisions?
Les décisions, des fois, j'ai envie de dire sur un coup de tête.
Ouais, c'était le cas là. Tu dis, ouais, j'en ai ras le bol, j'arrête.
Oui, mais bon, il faut le peser financièrement parce qu'il faut pas mettre en péril non plus sa
Bien
boîte.
Sûr.
Mais il a fallu le réfléchir et le penser, mais ça a été un coup de tête où j'ai dit, maintenant, il faut qu'on le fasse. Voilà. Oui.
T'es ambitieuse? T'es une femme ambitieuse?
Je suis pas ambitieuse, mais par contre.
T'es une gagnante quand même. Enfin,
je suis une gagnante. Voilà. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, je dis toujours à mes équipes, rien n'est impossible.
Ouais.
Alors, ils me regardent à chaque fois et disent, non, mais rien n'est impossible. On peut y arriver.
Ouais.
Voilà. Donc, oui. Là, par exemple, je vais donner un exemple. On sort du confinement. Personne n'était capable de dire quand est-ce que ça allait vraiment redémarrer, les grands magasins et tout. On va ouvrir le 15 juin la pop-up que je devais faire avant, qui avait été totalement annulée. Donc, ça a été compliqué. Il a fallu annuler des livraisons. Enfin, c'était tout un bins. Annuler toute la prod et tout. Et en moins d'un mois, on a remis le truc sur pied. On va ouvrir le 15 juin aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. Et on va faire la même chose le 30 juin au BHV. Mais je suis tout front là. Je leur ai dit, on va le faire. Vous inquiétez pas, on va y arriver.
Et tu prends le temps de répondre à mes questions.
Non, mais ça fait aussi partie des choses importantes.
Ouais, parce que enfin la question a été rigolote comme ça, mais en réalité, enfin, t'as quand même construit un truc de fou, quoi. Je veux dire, tu te rends compte de l'ampleur de ce que t'as construit?
Mieux maintenant. Mieux maintenant, et c'est pour ça que même j'ai du plaisir à me rendre compte de ce que j'ai construit. Alors que pendant beaucoup d'années, je me rendais pas compte, et que les choses sont passées très très vite. Et souvent, je me suis dit, mais quand même, t'as pas pris vraiment le temps d'apprécier ce qui t'est arrivé là. Voilà. Et aujourd'hui, je savoure chaque chose et vraiment, je prends le temps. Et c'est pour ça que je veux pas faire de choses où je sais que ça va m'embarquer dans des choses où je vais pas aimer, que ça va me prendre énormément d'énergie. Et même si c'est sur au détriment d'un choix financier, je dis des fois non.
On dit souvent quand on fait rien tout seul, j'imagine que ça se vérifie aussi chez toi.
Absolument.
Comment tu t'es entouré au tout début et jusqu'à aujourd'hui? C'est qui les premières personnes que tu as recrutées, etc. Tu peux nous raconter ça un petit peu? Quelles ont été les personnes importantes dans l'aventure Vanessa Bruno?
Tout d'abord, c'est familial. Mon père a toujours été là. Lui, très vite, il m'a rejoint, mais sur la partie plus opérationnelle et financière, structure des stocks, de la production. J'ai un de mes frères qui m'a rejoint aussi sur la production. C'est lui qui gère toute la production aujourd'hui.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est bien.
Ouais, absolument. Et je dirais que j'ai eu des gens, par exemple à la presse, avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui ont été vraiment super aussi. J'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé sur le développement. En fait, quand moi je commence à travailler avec quelqu'un, ça peut durer. C'est une histoire qui peut durer 10 ans et plus sans problème. Voilà. Après, dans la vie, voilà, c'est normal. Il y a des gens, ils ont envie d'évoluer, vice versa. On peut passer à autre chose. Mais il y a eu dans mon parcours, évidemment, des gens qui ont été très importants. Et aujourd'hui, je peux dire encore que je travaille, par exemple, avec des gens qui ont travaillé avec moi depuis plus de 10 ans, quoi, qui sont encore là. Ça peut l'équipe au style, les responsables au studio. Ça peut aller jusqu'à responsable même du wholesale qui avait démarré avec moi comme stagiaire, qui avait évolué dans la société, qui est parti pendant 3-4 ans et qui est revenu maintenant. Donc on est un peu comme une grande famille. Voilà.
Vous êtes combien aujourd'hui?
Alors, on est avec les boutiques tout compris à peu près 130 personnes.
C'est quoi la culture d'entreprise de chez Vanessa Bruno?
La culture d'entreprise, je pense que c'est une culture où les gens ont absolument besoin de se faire sentir partie d'une famille. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je prends le temps de... Alors, je peux pas rencontrer tout le monde, soyons honnêtes, mais c'est vrai que je prends le temps de leur faire sentir qu'ils comptent.
Comment tu fais ça?
Parce que ça, je suis intéressée à ce qu'ils font.
Tu passes du temps avec eux?
Non, parce que je sais ce qu'ils font. Je connais. Je sais ce qu'ils font. Je peux parler à quelqu'un qui s'occupe de la DV. Je sais. Je m'intéresse. Je pose des questions. Je peux parler à une personne qui s'occupe du retail, qui est responsable du retail. Je connais très bien depuis des années mes boutiques. Je sais très bien comment ça fonctionne. Avant-hier, j'étais à l'ouverture du Bon Marché. Bon Marché a été le premier grand magasin à me donner un stand. C'était le premier grand magasin. Mais j'ai une histoire avec le Bon Marché qui est incroyable.
Bah, raconte-nous.
Déjà, il y a 25 ans, ils me donnent un stand et aujourd'hui, je fais le business, un business incroyable avec eux. Ils m'ont donné cette liberté pour la première fois il y a un an. Ils ont donné carte blanche à un créateur, à une pop-up que j'ai faite par rapport au Kaba Voyage, parce que j'ai fait tout un concept autour du Kaba. Et je l'avais fait le premier voyage, c'était Saint-Tropez. On a organisé sur un espace de 300 mètres carrés, où ils vous demandent des niveaux quand même de business, c'est un challenge, quoi. Et normalement, c'est les espaces où ils font leur pop-up avec plein d'autres multimarques, où ils créent tout un truc événementiel. Donc, c'était quand même
un petit challenge.
Et fort du concept, où on a fait venir Sénéquier, on a fait venir Rondoni. Enfin, c'était très sympa. On a fait faire un atelier Kaba et on a développé des produits. On a développé des produits exclusifs pour ça. Mais moi, je suis capable de mener des projets comme ça en parallèle de la collection que je mène. Mais je sais comment m'organiser, avec qui le faire. Parce qu'il faut jamais oublier que vous faites rien seul.
Ouais.
C'est bien savoir s'entourer. Donc, l'énergie, je l'ai. Après, c'est savoir bien s'entourer pour que les choses
soient exécutées.
Ouais. Soient exécutées, oui.
Comment tu choisis une personne, alors?
Bah, écoute. Sur des critères qui sont pour moi avant tout de feeling et de goût. Et après, je dirais en fonction de ce que cherche professionnel. C'est-à-dire, je suis tout à fait capable de donner la chance à quelqu'un parce que je sens qu'elle a quelque chose d'intéressant ou d'intéressant à m'apporter, alors qu'il n'a pas forcément la connaissance, mais je vois en cette personne le potentiel. Et vice-versa, je vais aller vers des gens qui sont ultra professionnels parce que ça, je sais que j'ai absolument aucune connaissance là-dessus et qui eux vont m'apporter quelque chose que je connais pas encore aujourd'hui et qui vont bien me le faire beaucoup mieux que moi.
Qu'est-ce que tu ne connais pas encore aujourd'hui?
Non, mais je connais toutes les clés de ce métier, mais je ne suis pas une pro dans tout ce que je fais. Faut pas exagérer. Donc
c'est quoi alors les clés de, pardon, je te coupe, mais les clés de ce métier, parce que souvent la question que j'avais envie de te poser tout à l'heure, c'était OK, bah en fait, un bon produit ne fait pas tout, quoi. Je veux dire, il y a
c'est
quand même
une composition.
Ouais, c'est une composition.
C'est une composition. C'est un ensemble, c'est une composition. Mais déjà, ça base avant tout sur une réflexion entre le choix de matière, entre le choix du vêtement, de la qualité, de ce qu'on veut faire, la construction. Enfin, voilà. Et ça, il faut avoir une équipe. C'est pour ça que même moi, les essayages techniques prod, jusqu'à la tête de série, je vais les voir. Mais je veux le voir porter sur une fille que je sais qui ressemble à une fille qui est dans les boutiques. Et tout de suite, je vois s'il y a quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on vous dit, ah non, mais là, ça allait pas, ça taillait trop grand, ben alors non, ça y allait pas, les femmes peuvent pas le porter, c'est la manche est trop large, je sais pas trop quoi. Oh, mince. Mmh. On n'a pas vu ça. Ah, ouais, pourtant, je trouvais ça cool sur la mannequin. Attends. Qu'est-ce que j'ai loupé, là?
Ça t'arrive encore de louper ça? Et comment on fait pour ne pas louper ça, à part suivre jusqu'au
bout? Il faut
bout
plusieurs étapes.
Ouais.
Il faut être hyper rigoureux, il faut plusieurs étapes et bien contrôler.
Mmh.
Et il faut avoir une équipe qui ont cette rigueur.
Qui a cette obsession de ça.
Ouais.
Mmh.
Oui.
Très bien. On dit aujourd'hui que, à un moment donné, la mode est partie un peu en cacahuète. Enfin, elle s'est, mmh. elle est partie en vrille.
Mmh.
À quel moment c'est parti en vrille, ce truc-là?
Je dirais que déjà, ça a été la folie des défilés quand ça a commencé à démarrer, quand il fallait faire New York, Milan, Londres, Paris.
Tu as défilé, toi?
Moi, j'ai défilé. Mmh. Après, ça a été, on fait les pré-cols. Donc là, c'est devenu deux défilés par an, quatre présentations, enfin bon, espèce de truc complètement ouf. Les capsules en milieu de tout ça. La couture qui s'y met, qui te met dans le calendrier. Enfin, une espèce de truc complètement fou. Qui s'est arrêté avec le Covid, mais franchement, il existait encore hier. Hein. Voilà, il faut pas oublier. Moi, j'ai fait des défilés et à un moment, je me suis plus retrouvée. C'est-à-dire, je dois dire que c'est génial de faire un défilé parce que c'est vrai que ça pousse vraiment la pensée et jusqu'à la construction de sa collection à l'aboutir parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'extrêmement visuel quand les filles arrivent, qu'on raconte vraiment une histoire forte pour chaque silhouette et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment une super expérience que j'ai adoré faire. Mais je me suis rendu compte que ça m'a éloigné mes clientes. C'est-à-dire qu'à la fin, cette folie de défilé, en plus, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour un temps qui arrive en boutique qui est très court. Alors que finalement, le plus important pour moi, c'était de faire des vêtements, d'avoir le temps de les faire, de les penser, de bien construire mes collections dans quelque chose qui était une vision sur laquelle je pouvais vraiment me projeter là-dedans et surtout me projeter par rapport à la cliente que je voulais et surtout leur offrir des beaux produits. Et ça, à partir du moment où on veut faire un défilé à côté, eh ben, on passe à côté de certains trucs. Et ça, je pouvais pas, en tant qu'entreprise indépendante,
te permettre ça. Ouais.
Je pouvais pas me permettre ça. Donc, j'ai préféré revenir à mes fondamentaux, à ce que je sais bien faire, à avoir un vrai travail de qualité avec les usines avec qui j'avais l'habitude de travailler, mettre en place des choses beaucoup plus construites, propres. Parce que c'est vrai qu'à la fin, vous faites tellement de choses. Puis il y a du gâchis, tu peux pas fabriquer ça et ça. Et moi ça je déteste. C'est-à-dire que les gens qui commandent des tissus et qui savent pas ce qu'ils veulent faire derrière, c'est pas possible. Moi je sais quand je commande un tissu ce que je vais faire avec, je l'imagine très bien. Je suis quelqu'un parce que c'est mon entreprise aussi. Ça c'est mon côté chef d'entreprise. C'est je ne suis pas là, je fais pas du sampling et je suis là
C'est pas la fête du slip.
C'est pas la fête du slip, voilà. Non, et je pense que c'est important parce que il faut une exigence à travers tout ça. Mais le plus important, c'est le rêve. Parce que chaque saison, tu dois séduire cette femme.
Et surtout, tu fais ça d'ailleurs? Ça, c'est un vrai sujet.
C'est ça qui est génial.
C'est ça la mode aussi.
C'est ça la mode, c'est ça qui est génial. C'est que il faut quand même à un moment que moi, toi-même,
tu sois séduit.
Tu sois dans une pulsion créative où tu dis « Ah, mais ça, j'essayerais bien ça avec ça. » Et puis, cette association d'imprimés, je l'ai jamais faite ou je le verrais bien avec ces couleurs-là. C'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, c'est un vrai plaisir de retrouver ces petits qu'on aime et qu'on refait un peu autrement.
J'ai des formes, les fameux carry-over.
J'ai des formes de pantalons que je suis en carry-over parce qu'ils marchent très bien, mais je suis ravie. Je suis ravie qu'on me dise… tu sais, ça c'est bien si tu peux nous le refaire parce que ça marche vraiment bien, mais c'est un vrai plaisir quand même.
Ah bah c'est un kiff, ouais, c'est sûr.
Voilà,
donc c'est clair. Et justement, parle-nous du processus de création. Ça c'était une première question et j'ai une deuxième question que je voulais te poser tout à l'heure encore. C'était comment on se lasse pas de ce métier en fait, parce que après 25 ans de collection, etc. Au bout d'un moment, est-ce qu'on s'essouffle pas aussi soi-même?
Alors, une des raisons là où je me suis essoufflée, où j'étais épuisée, c'était au moment des défilés. Et ça, c'est vrai que c'était une décision difficile parce que j'étais au devant de la scène, Et puis vis-à-vis de la presse, quand t'arrêtes de défiler, c'est un peu...
C'est un échec, quoi.
C'est un échec, quoi. Mais moi, je sentais déjà que ça n'allait pas et qu'il y avait quelque chose dans l'air du temps. Et je me suis dit, mais tu n'as jamais été ça.
T'as arrêté quand?
Je veux pas dire de bêtises, 2015, 2014 ou 2015, un truc comme ça. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et moi, j'avais toujours fait des vêtements pour sublimer le quotidien, pour qu'elle se sente bien, faire des choses où, dans lesquelles elle pouvait le reporter une saison après une autre saison, le mélanger avec des choses qu'elles avaient achetées une saison d'avant et qu'elles remélangeaient. Et que du coup, elles étaient pas dans quelque chose de caricatural. Et je me suis dit, mais il faut que tu reviennes à ça. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, vis-à-vis de la presse, bah forcément, tu prends un choix à ce moment-là de moins être dans un espèce de système où tu t'exposes tout le temps. Et la presse, elle a besoin d'avoir de la nouveauté et que tu te mettes en avant et que tu te mettes en avant. Donc voilà. Mais quelque part, ça m'a réussi parce que au niveau du business, j'ai réussi à bien développer, à maintenir les choses. Et c'était, je pense, une bonne décision.
Je t'avais posé une question, je t'avais posé deux questions. Et la première, je sais plus ce que c'était, j'ai perdu.
Non, tu voulais savoir le process de création.
Oui, c'est ça. Pardon.
Déjà, comme je disais, le plus important, c'est que tu fasses rêver. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai l'idée d'avoir une vision qui est comme un poème visuel, qui est quelque chose de urbain, mais poétique. Ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé mon image. J'ai démarré avec Marc Borswick il y a des années, qui était un photographe avec qui j'ai adoré travailler, où on avait cette façon de créer un rêve, d'incarner la femme de façon extrêmement belle et naturelle, mais presque dans un rêve. Souvent, on voyait pas vraiment les vêtements. Il y avait, la fille était photographiée dans la nature ou avec un coucher de soleil ou je sais pas trop quoi.
Dès le premier jour, t'as fait ça?
Ouais, premier jour. Ça, et d'ailleurs, c'est les filles ont adoré. Et j'ai fait ça pendant des années avec lui. Donc, il n'y avait pas d'image marketing, entre guillemets. Après, et par rapport à ça, quand je crée mes collections, je démarre toujours de cette vision poétique, avant tout. Parce qu'il faut faire rêver. Il faut séduire par une nouvelle gamme. Il faut séduire par une nouvelle sensation de vêtements de collection où tu arrives et tu dis, ah, mais c'est vachement joli, ça. Après, je travaille ma collection comme un puzzle. C'est-à-dire, j'ai des morceaux comme ça et je vais construire mon puzzle. Je vais le ramener devant moi comme une pièce et quand je l'aurai devant moi, en silhouette, en merchandising, je sais que j'ai réussi, j'ai abouti ma construction de collection. Et ce qui est très important, c'est qu'est-ce que tu vas donner comme image derrière. Donc, j'ai fait ces images avec Marc et après, j'ai travaillé avec une fille avec qui je travaillais à la DA, qui s'appelle Stéphanie Di Giusto et qui est une réalisatrice aujourd'hui de films. Elle a fait son film La Danseuse, qu'elle a présenté même à Cannes. Enfin, c'était génial. Et ensemble, on a été vraiment les précurseurs à faire des films qu'on a appelés des poèmes visuels. Que j'ai fait avec Lou Doyon, avec Kate Bosworth. Et c'était vraiment un univers ultra féminin, onirique, poétique, et qui était balancé sur YouTube. Et t'avais plein de gens qui pouvaient les voir. C'était comme ça. On avait même pas... Enfin, mon site démarrait, mon Instagram était pas vraiment là. Mais je crois que j'étais à ce moment-là pas assez... au fait de comment je pouvais monter en puissance avec tout ce côté digital. Donc, je l'ai fait de façon assez, on va dire...
Instinctif,
ouais. Mais sans me professionnaliser là-dedans, voilà, ouais, je dirais.
Ouais. Et aujourd'hui, tu sens que tu as pris le tournant ?
Oui, complètement.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que tu apprends aussi de tes erreurs. Et aujourd'hui, je travaille énormément. Ça me prend presque autant de temps, le développement de collection, que de travailler tout le contenu en permanence, sur le digital, sur le site, sur l'Instagram.
Comment t'organises ça? Parce que c'est un casse-tête chinois.
Ben, on a remis en place, grâce à Henri d'ailleurs, s'est mis d'accord parce qu'on était d'accord là-dessus. Et ça, quand on s'est vu, on a eu comme ça des perspectives très claires sur ce qu'on voulait faire par rapport à la marque. Et on savait que ça, il fallait qu'on le mette en place. Donc, on s'est donné les moyens, mais c'est des moyens, quand je dis toujours aux gens que je prends avec moi, je leur dis, ben, vous savez, ici, il faut travailler comme dans une start-up. On n'est pas nombreux.
Donc, il faut faire très, très bien avec les moyens de la start-up.
Avec les moyens qu'on a, voilà. Et après, il faut avoir des gens qui ont du plaisir à le faire, ouais, et à partager cette aventure. Parce qu'à la fin, c'est une aventure.
Bien sûr.
C'est ça qui est important.
Comment t'arrives à les embarquer, les gens, d'ailleurs?
Je pense que c'est tout simplement
la passion. Ouais.
Ouais, c'est la passion. Peut-être aussi parce que je crois que je suis aussi capable de les écouter. Et si je les choisis, c'est parce que justement, ils vont aussi m'amener quelque chose. C'est pas vice. Enfin, pour moi, c'est vice versa. Pardon.
Ça va pas que dans un sens.
Non.
La feuille de route que vous étiez fixée avec avec Henri, c'était quoi l'idée? Il y a digitalisé beaucoup plus la marque.
Incarner.
Ouais, incarner, plus incarner.
Incarner.
Parce que on te voyait pas beaucoup. Ça veut dire quoi, incarner?
Oui, c'est-à-dire, j'avais d'abord, c'est vrai que comme il y avait personne derrière moi pour me dire, hé, là, tu te mets un peu plus en avant, s'il te plaît.
Ouais, bon. J'y allais pas forcément.
J'y allais pas forcément. Donc, ouais. Henri a vraiment dit là-dessus, il a dit maintenant. Je veux dire, Vanessa Bruno, les gens doivent comprendre qui est la femme derrière. Il faut que tu te mettes plus en avant. T'as pas besoin d'aller plus loin que ça, simplement juste à travers ton Insta, tu vois, tu le fais.
Et tu fais quoi d'ailleurs? Tu prends la parole?
Oh, je peux prendre la parole pendant le confinement.
T'as fait des lives?
J'ai fait deux. Je suis allée en boutique et c'est vrai que ce que j'aime faire, c'est-à-dire j'ai pris des looks que j'aimais bien, je me suis habillée et pour la première fois, je me suis pris en photo et j'ai dit bah voilà comment j'aime m'habiller avec ma marque. Et au début, je me sentais un peu ridicule, je dois dire, ouais, parce que je me dis oh là là, je vais faire ça. Puis finalement, quand j'ai vu comment ça a marché, je contrôlais quand même mon image parce que c'est moi qui me prenais des photos de moi, donc j'étais pas. Je dis ah mais c'est sympa finalement, j'aime bien. Donc ça, c'est des exemples, mais tout ça pour dire que après, il y a tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui n'était pas bien expliqué, c'est-à-dire que si on attend la presse pour montrer tout ce que t'es, le panel de produits que tu fais, ils vont sortir quelques pièces, ils vont te mettre en avant, ou ça va être une thématique parce que c'est la mode et en ce moment ça marche bien. Et donc du coup, effectivement, ils vont ressortir quelques produits qui vont ressortir souvent dans la presse. Mais ce qui est génial avec le digital, avec l'Insta, c'est que tu peux montrer toute ta palette de produits que tu développes. Ce qui fait que les gens se disent « Ah, mais il y a ça. Ah, mais il y a ça, mais c'est génial. » Et c'est là où il faut savoir bien le mettre en scène et l'incarner. Et c'est ça qu'il faut faire.
Et alors, c'est quoi la recette?
La recette, c'est ton esthétique, c'est ton image. En fin de compte, à la fin, c'est un mec. Il faut considérer qu'aujourd'hui, développer le digital, c'est comme si tu avais ton magazine à toi en ligne. C'est pareil. Tu dois raconter ton histoire. Tu dois avoir ta ligne éditoriale.
Avec des moments forts.
Ta ligne éditoriale avec tes moments forts. Et montrer tes produits le mieux possible.
Très bien. C'est ouf. Enfin, c'est hyper bien. C'est hyper intéressant. C'est vrai que finalement, en pensant à ce que tu me dis, c'est vrai que les magazines aujourd'hui, ils ont un côté un peu... C'est vrai que tu racontes qu'une petite partie de l'histoire. Et c'est souvent très frustrant parce que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière, quoi.
Ouais. Et c'est ça qui est, mais c'est pour moi, et ça a été un vrai plaisir. Parce que ça a remplacé pour moi le défilé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le défilé, c'était un instant T, ça a duré 10 minutes avec tes looks. Mais encore, ça représentait pas toute la collection parce qu'en plus, t'avais déjà vendu la pré-collection avant. Parce qu'il faut jamais oublier que dans notre métier, tu présentes le défilé, mais t'as déjà vendu 70% ou voire 80% de ton business en amont déjà 2 mois avant. Et que tu ressors 2 mois après une collection qui est défilée et qui est supposée montrer l'image de la saison avec les instants forts. Mais en vérité, le gros du business, il se fait en amont pour toutes les marques, d'ailleurs.
D'ailleurs, juste pour revenir sur la feuille de route avec Henri, c'était incarnation, digitalisation. C'était quoi les autres projets?
Développement des boutiques.
Le retail.
Du retail.
Ouais. Pourquoi? Pourquoi le retail, c'est si important?
Parce que le fait que tu es autonome sur ton réseau te permet de mieux construire finalement ta structure de collection et de pouvoir mettre en avant de façon beaucoup plus, ton style. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas le mettre en avant. Alors moi, je suis pas du tout pour le développement de réseaux comme certains groupes à tous les coins de rue. C'est pas ça dont on parle,
ouais,
du
ouais,
tout.
Ouais.
Mais quand même, ouais. Je veux dire... On a aujourd'hui une vingtaine de points de vente, mais le gros de ces points de vente sont couverts par les grands magasins. On a entre 7 à 8 boutiques aujourd'hui, un peu plus, pardon. On a ouvert Deauville il n'y a pas longtemps, je me trompe. Enfin, on va dire une huitaine. Oui, on peut avoir un peu plus de boutiques quand même.
Carrément. Raconte-nous cette rencontre justement avec Henri, parce qu'il est arrivé à tes côtés il n'y a pas très très longtemps. Pourquoi ce besoin, alors que tu avais été plutôt...
J'étais très admiratif de ce qu'il a fait pour Carven. J'ai toujours dit, ce mec est génial. Et puis, dans certains événements, j'avais eu l'occasion de se dire bonjour, de le rencontrer. Puis, pour ceux qui connaissent Henri, c'est un vrai bonheur. D'abord, il a le sourire qui vient en premier, et tout de suite, très sympathique, il rigole, c'est la bonne humeur, mais c'est le professionnalisme. Et j'ai vu ce qu'il était capable de faire, j'ai vu comment il a développé Carven, et je m'étais toujours dit, ah, c'est bien si ça aurait été un mec comme ça, si avec qui j'avais pu bosser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu son histoire avec Carven, moi j'ai eu la possibilité de le re-rencontrer, j'avais besoin d'un renseignement, je lui avais demandé, parce que du coup, occasionnellement, j'ai pu lui demander de me donner des conseils sur certains choix stratégiques commerciaux. Et les choses a fait qu'à un moment, il a dû prendre un choix de vie, de parcours. Et je suis allée le solliciter en lui disant, est-ce que tu voudrais venir travailler avec moi, t'associer avec moi? Et il avait d'autres possibilités. Il a dit, OK, banco, on y va ensemble.
Trop bien. Et toi, tu fais quand même partie du top level quoi, dans l'industrie de la mode. Est-ce que tu rencontres les autres?
D'abord, c'est gentil de me dire ça. je rencontre les autres. Ben, j'ai quand même j'ai rencontré plein de gens et je connais plein de gens. Oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'on se côtoie des gens de ton niveau, de ta trempe? Est-ce qu'on se rencontre? Est-ce qu'on fait des dîners ensemble? Est-ce qu'on est amis avec les autres?
Je pense que il s'est arrivé à des moments de ma vie, oui, où je voyais plus certaines personnes que d'autres. Peut-être, je pourrais pas expliquer pourquoi j'en vois moins aujourd'hui. Évidemment, Isabelle est quelqu'un que je connais depuis, Isabelle Marant, depuis très longtemps. Puisque même quand j'ai ouvert ma boutique, à l'époque, rue Ferdinand Duval, on était copines et je lui ai dit, viens, amène tes robes en jersey. À l'époque, elle faisait des robes en jersey, je m'en souviens, et je vendais les robes d'Isabelle dans ma boutique parce qu'on démarrait toutes les deux. Mais peut-être les parcours de vie après de chacun. Mais moi, j'aime bien rencontrer toujours les jeunes. Je sais ce que demande ce métier. Sais ce que ça demande et je sais à quel point ça peut être compliqué. Donc, il m'arrive qu'on me demande si je peux rencontrer certaines personnes et les conseiller, et je le fais avec plaisir.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné?
Je pense pas qu'il y ait un seul conseil. Je pense qu'on m'a donné des conseils que j'ai pas été foutu d'écouter.
Comme quoi, par exemple?
Oh, je pourrais en donner plein. Mais bon, c'est pas l'idée. C'est-à-dire que peut-être qu'à des moments, je suis un peu dure d'oreille et j'écoute pas forcément. Et puis, il y a d'autres que j'écoute. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que je saurais pas dire.
Alors, qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux jeunes quand on vient te demander? Alors voilà, moi j'aimerais bien faire la même chose que toi. Qu'est-ce que tu leur dis?
Mais d'abord, il faut dire une chose, si ton histoire et ton parcours n'est jamais la même histoire et le parcours de la personne. Je dis par contre qu'aujourd'hui, je pense que sincèrement, si tu développes ta marque, il faut vraiment se spécialiser dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut démarrer avec un projet, ce sur quoi on va te reconnaître pour ça. Si tu penses que tu vas développer une collection et que tu vas faire une collection, genre comme tu penses un défilé, là, tu vas avoir du mal. Il vaut mieux que tu démarres dans des grandes maisons. Mais par contre, si tu démarres un projet et que tu as, je vais pas dire un monoproduit, mais un mono idée de style, je trouve que c'est plus intéressant.
Qu'est-ce que tu trouves intéressant en ce moment dans l'industrie?
Moi, j'aime beaucoup des marques comme Etude. J'aime beaucoup Jacques Mus, je trouve qu'il est quand même génial. Il m'éclate. Après, je pense que je regarde plus des petites maisons, des maisons des jeunes créateurs, des gens qui vont aller... tout d'un coup, on s'attend pas et qui vont faire des choses ou ce qui n'associe pas que le vêtement d'ailleurs. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Comme Etude,
Voilà.
C'est quoi la vision pour Vanessa Bruno là pour les 25 prochaines années?
J'aimerais vraiment développer plus un univers dès que je peux, plus autour du lifestyle.
De la déco, du lifestyle, c'est
ouais,
quoi?
Mais c'est vraiment une expérience client, toutes différentes choses. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir développer.
C'est quoi? C'est des restaurants, des hôtels, des salles de sport?
Non, je pense que c'est moins ambitieux que ça quand même. Ouais. Non, c'est plus... je pense que si tu fais un lieu, ça doit être un lieu de vie aujourd'hui.
T'as des exemples de gens qui t'inspirent là-dessus?
Je pourrais dire par exemple, oui, évidemment, ce qu'a fait Martine Cohen avec Merci, c'est absolument génial.
Ouais. Marie-France Cohen.
Marie-France Cohen, pardon, ouais. Excuse-moi, bien sûr. Parce que ça, c'était très bien vu. Mm. Je pense que dans les dernières choses qui se sont faites, je trouve que Bully est vachement bien.
Ouais, c'est ouf.
Voilà. voilà, typiquement, un mec qui m'éclate aussi, parce que je trouve qu'il a Ramdam, qui a une vision comme ça, où il va aller au bout de son rêve. Et c'est très bien fait. Mmh. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Si t'es un jeune créateur, pense comme ça. Mmh.
Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de le recevoir. C'était le 50e épisode, Ramdam. Mais... à chaque fois que je vais dans ses boutiques, je me dis putain, mais il a trouvé un truc quoi. Il a cassé le game quoi. C'est impressionnant. Mm. Et ouais, grande inspiration.
C'est-à-dire que si tu es juste là et tu et en plus aujourd'hui c'est génial avec le digital, c'est-à-dire que un jeune il peut dès le départ travailler son image. Mm. C'est-à-dire dès le départ, très simplement, hein, pas besoin de. Mm. Il peut travailler son image, sa mise en forme, son propos, et il a pas besoin. Tu vois, d'aller louer une salle avec un podium pour le faire. Parce qu'à la fin, moi je dis toujours, vous faites ça pourquoi? Pour que les femmes s'habillent, les hommes s'habillent. Pourquoi? Pour que ça se vende. Donc il faut réfléchir. Ça, tu peux pas juste le faire pour te faire plaisir et te dire, ah, c'est comme ça que j'imagine la femme. Bah non.
Non, ça n'a jamais. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça existait d'ailleurs ça?
Bah, il y avait une époque, c'était un peu ça. Hein. Ouais. Toute ma génération, quand on a démarré de styliste, je pourrais en citer. C'était un peu ça. C'était, il fallait absolument passer par le défilé. Il fallait absolument défiler. C'était vraiment ça, quoi.
Tout à l'heure, on parlait de la mode qui était partie en cacahuète. Aujourd'hui, tout le monde a ce mot dans la bouche, c'est la sustainability, le développement durable, etc. Toi, comment tu envisages ce truc-là? Est-ce que tu te dis, en fait, je l'ai toujours fait, c'est même pas une question, il faut peut-être plus en parler, etc. Comment tu envisages les choses là-dessus?
Déjà, je pense qu'on l'utilise un peu n'importe comment.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je me sens pas du tout, si tu veux, de dire, moi, j'ai une marque 100% sustainable. C'est-à-dire ça, il faut faire attention. Par contre, je suis quelqu'un d'éco-responsable. Oui. Je suis quelqu'un qui est responsable même par rapport à mon travail avec mes usines, à quoi ça sert, avec qui je travaille, qu'est-ce que ça permet de développer, quel est le produit, d'où ça vient, l'éthique, oui. Quand je fais ces produits à Madagascar, on a démarré avec cette usine aujourd'hui a développé avec plus d'une centaine de femmes là-bas, qui ça nourrit des familles entières, enfin c'est quand même génial ce qu'on a réussi à faire, et ça je suis super content. Lui il a monté des teintures naturelles à côté, parce que je voulais vraiment que tous les trucs soient faits en raffia naturelle, que les teintures restent naturelles. Pareil au niveau en fin de compte de la technique de montage, comment c'est fait à la main, tous les process, enfin voilà. Moi et comme m'a dit Henri, mais tu parles pas de ça, tu le montes pas. Alors là dernièrement on l'a fait. Fort de ça, ça a été un succès aussi sur le digital. Mais c'est vrai que je suis
profondément responsable.
Profondément responsable et je m'intéresse à mes usines. Moi, je suis pas une styliste qui reste derrière son bureau ou avec.
Ouais, t'as toujours fait les choses avec beaucoup de bon sens, quoi.
Je me suis toujours déplacée, j'ai toujours été dans les lieux. Quand je trouve un produit qui m'intéresse ou une façon de faire, c'est parce que je me suis déplacée et que j'ai vu comment ils le faisaient.
Comment tu t'organises? Question que j'essaye de poser de plus en plus et qu'on me reproche de pas assez poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un équilibre dans sa vie pro et sa vie perso quand on fait un métier qui est aussi prenant?
Faut faire des choix. C'est voilà, déjà le défilé aussi a été un des choix. Je vous ai dit, j'ai plus de vie. Voilà. Après, il faut savoir se donner des plages vraiment où on se dit là, moi j'ai besoin d'aller au vert, marcher, je vais, j'ai la chance où ma mère vit de la pouvoir la retrouver dans une maison qui se trouve pas loin d'Avignon, du côté des dentelles du Mont-Mirail. Donc c'est absolument extraordinaire de pouvoir, c'est à 3h30 de Paris, enfin c'est génial. On se retrouve dans un endroit. Et ça, c'est des moments où c'est très important de se ressourcer, de se vider la tête. Mais il y a peut-être d'autres gens qui font d'autres trucs. J'adore aller dans des concerts. Rien que sortir un soir, aller dans un concert, m'amuser, ça me va très bien aussi. Et boire des coups, je peux faire ça aussi, quoi. Non, mais c'est pas...
Et est-ce que tu as des outils de productivité? Ça, c'est vraiment la question très start-upper. Dire, OK, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour être hyper au carré, être productive pour bien communiquer avec toutes tes équipes, etc. Est-ce que tu as des
choses comme ça? Alors, je suis nulle avec ça. Vraiment nulle.
OK.
Mais par contre, j'ai des gens top qui organisent ça très bien. Ouais. Et moi, j'arrive pas à rentrer dans les rangs. Ils m'envoient des tableurs, des trucs, ça me saoule, je les ouvre pas. Donc, je suis toujours celle qui vient embêter en demandant « Alors, au fait, c'est pour quand ?» Alors qu'il y a le tableur avec la date qui est marquée. Non, non, c'est épouvantable.
Ouais, c'est pas la bonne question pour toi, alors. Très bien. Eh bien, écoute, moi je suis hyper content. On a fait un grand tour et j'aime bien poser des petites questions à la fin du style. Voilà, si tu avais l'opportunité de glisser un petit conseil à l'oreille de Vanessa Bruno, 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Be good to yourself.
D'accord. Tu l'as été?
Pas tout le temps, non. Non, non, ouais. Justement, il faut savoir un petit peu à des moments se dire, bon, ça va, allez.
C'est pas mal quand même.
C'est pas mal.
Tu dis à tes enfants ça?
Ouais, mais je crois que je suis assez exigeante. Donc, ah oui. Ouais. Je suis assez exigeante. En tout cas, je leur explique que rien ne se fait sans le travail. Voilà.
C'est vrai que ça, c'est quand même une question que j'ai posée aussi à Ramdan, parce qu'on parlait de lui tout à l'heure. Dire que lui il vient de très très loin quand même, hein. Je sais pas si tu connais sa vie. Comment est-ce qu'on transmet ces valeurs de travail, d'abnégation, de rage de réussir à des enfants qui sont bien nés et qui ont vu leurs parents? Alors je sais pas quel âge ont tes enfants, mais est-ce qu'ils t'ont toujours vu bosser comme une malade?
Ma belle-fille a 24 ans aussi.
Ouais. Et tu te dis voilà, comment est-ce que je fais en sorte que qu'ils aient quand même des valeurs solides, quoi? Comment on transmet ça?
Je pense que c'est tout le long de leur vie d'abord. Parce que si on pense qu'on va leur dire ça quand ils ont 20 ans, c'est mort.
C'est un peu tard, ouais.
C'est totalement mort.
Ouais.
Non, je pense que c'est tout le long de... C'est ça, accompagner son enfant vers l'épanouissement. C'est de lui transmettre ça au fur et à mesure à des moments, de pas baisser les bras, de prendre les échecs comme quelque chose, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Enfin, c'est un peu bateau ce que je dis, mais...
C'est un peu le béaba quand même, ouais.
Ouais. Après, moi, j'ai eu un père très exigeant et assez dur. Je pense que pendant des années, j'ai voulu forcer les choses et toujours travailler pour... me prouver ou lui prouver que j'étais que je pouvais y arriver.
C'est un
revenir
moteur.
À la question du début, tiens, peut-être.
C'est un moteur.
Ça a été un moteur. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça.
Et alors, c'est quoi aujourd'hui ton moteur?
Aujourd'hui, mon moteur, c'est simplement le plaisir. C'est-à-dire de être capable aujourd'hui de faire des choses pour un moteur, pour vraiment prendre du plaisir. Par exemple, ce que j'ai fait ce matin, parti à 6h30 à Rungis avec la jeune fille avec qui on crée les créations florales pour toute l'installation de la pop-up Rio pour que ça ait l'air exotique. C'est un vrai bonheur pour moi de faire ça. C'est pas, je me dis pas...
C'est l'obligation, quoi. C'est pas, ça voilà. Se fait pas dans la douleur. Ouais.
Et c'est ça qui est important. Et surtout, qu'à la fin, ça marche, ça marche. Ça marche pas, mais on aura fait le maximum. Donc, quand je disais à ta question de la fin, qu'est-ce que j'aurais quelque chose à dire à moi-même?
Ouais.
Sois bonne avec toi-même, parce que ça sonne un peu cato en français. Ça, je préfère en anglais, be good to yourself.
OK. Dernière question, c'est une question que je pose à tous mes invités. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
qui je souhaiterais entendre dans ce podcast? Alors, je suis désolée, d'abord, je suis pas sûre d'avoir la liste par cœur de ton podcast.
C'est pas grave. Ouais, je commence à en avoir pas mal.
Ah. J'aurais bien aimé entendre Yves Saint Laurent.
Ouais. Bah écoute, ça va être compliqué. Mais je vais essayer. Dans un autre monde. Merci infiniment, c'était super. J'ai appris plein de choses et c'était très agréable de parler avec toi. Donc j'espère que les auditeurs apprécieront cette discussion.
Bah, merci à toi.
À bientôt. Salut.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.